Première partie. Chapitre 1. Tombée du train. Novembre 2008. La main hésita un instant, se crispa sur la poignée et actionna l'alarme d'un geste brusque. Une secousse ébranla le train, puis une autre, tandis que déjà la silhouette coupable s'éloignait à grands pas. Encore un arrêt. On n'y arrivera jamais. Se désola pour la troisième fois l'étudiant assis près de la fenêtre, alors que le train ralentissait, avant de s'immobiliser dans un crissement des cieux. Anatole Derck, debout à l'entrée du compartiment, eut un hochement de tête qui pouvait passer pour une réponse. L'échange maximal dont il était capable après plus de 2 heures de trajet, que le jeune homme avait occupé à monologuer devant lui. Depuis Paris, Étienne, l'étudiant avec lequel il voyageait, consultait avec application son guide touristique, complété de feuillets imprimés sur Internet. Il se faisait un devoir de communiquer à son compagnon de voyage la moindre information pendant que défilait par la fenêtre un paysage normand noyé de pluie. « On devrait être à Cherbourg depuis 20 minutes !» grommela encore Étienne. Anatole fit quelques pas le long du couloir. Dans le train, aucun bruit. Comptait-il encore des passagers à part eux deux? Pleines au départ de Paris, les voitures s'étaient vidées aux 3/4 dès l'arrêt de Caen, puis totalement après 40 ans. À présent, seule la pluie martelant le toit des voitures leur tenait compagnie. Une annonce confuse du conducteur crachota que le train était immobilisé en pleine voie, on s'en doutait, qu'on ne devait pas tenter d'ouvrir les portes, on n'y songeait pas, et enfin qu'une rupture de câble ou peut-être un problème d'aiguillage expliquait leur infortune. On n'écoutait déjà plus. L'étudiant jetait des regards inquiets par la fenêtre où un crépuscule froid agrandissait les ombres. Anatole gagna l'entrée de la voiture et examina le mécanisme de la porte donnant sur la voie. L'étudiant le rejoignit. « C'est interdit d'ouvrir » commença-t-il. Mais Anatole manœuvrait déjà le levier. L'étudiant recula. « Vous êtes fou, on n'a pas le droit » répéta-t-il. Un pas vide, Anatole se pencha au dehors et respira à plein poumon. L'air du soir, chargé des odeurs de terre et de pluie, le détendit. Il descendit et s'assit sur le marchepied, contemplant le paysage que le hasard de l'incident offrait à leurs yeux. La nuit tombait sur une étendue de bocage où les haies luisantes clôturaient des champs cultivés aux formes irrégulières. « Rentrez !» insista l'étudiant toujours dans le couloir. « Écoutez !» lâcha brusquement Anatole. « Mais écoutez, Étienne ! Vous entendez ? Un clocher qui sonne ? Et alors ? Rentrez ! Ah, vous allez récolter une amende si vous descendez sur la voie !»
« Je reconnais à leur timbre les cloches de Valognes, » continua Anatole.
« On doit être tout près, moins de 5 kilomètres. Et alors ? Regardez, il pleut dans la voiture maintenant !»
Anatole se releva lentement. Toujours penché au dehors, il se retint à la poignée de la porte et continua d'écouter le son lointain de ce clocher que couvrait la rumeur de la pluie. Puis, il consulta sa montre. Bientôt 19 heures.
Je descends, annonça-t-il en boutonnant le col de sa veste. Quoi ? Au milieu de nulle part, en pleine campagne ? Nous sommes à peine à 3 kilomètres de Valognes. Cela se fait facilement à pied. Pourquoi ne pas attendre qu'on reparte ? C'est quoi Valognes ?
Mais Anatole sautait déjà lestement du marchepied et atterrissait avec un choc mou sur le ballast.
Continuez jusqu'à Cherbourg, comme prévu.
Lança-t-il sans se retourner à Étienne, dont le visage ébahi s'encadrait dans la porte ouverte.
« Je vous y retrouverai demain en fin de matinée, si le trafic reprend. Bonsoir !»
Courbé sous le crachin, la silhouette du passager récalcitrant glissa le long du train et escalada le talus en 3 enjambées. Elle disparut aussitôt de l'autre côté, happée par l'obscurité. Heureux de sa liberté retrouvée, Anatole avançait d'un bon pas le long d'un chemin creux bordé de haies. Un fond de ciel pâle à l'horizon éclairait encore le sentier détrempé. Le clocher sonnait toujours, tandis qu'il entendait au loin, derrière lui, le crissement du train qui repartait. Personne ne semblait s'être aperçu de son escapade. Anatole releva son col de veste et accéléra l'allure, indifférent au crachin qui s'épaississait. Il était à présent pressé d'arriver. Revoir Valogne. L'idée ne l'avait pas effleuré en quittant Paris, mais le bavardage d'Étienne l'avait excédé et il se félicitait d'avoir discrètement déclenché cette alarme pour lui fausser compagnie. Un hasard providentiel avait voulu que le train s'arrête précisément à cet endroit. Le tintement du clocher avait alors agi tel un commandement irrésistible. Il devait retourner à Valogne ce soir. Une évidence contre laquelle ni la pluie, ni le froid, ni la nuit ne pouvaient rien. Ce soir, il serait de retour après 27 ans d'absence à la recherche d'un rêve brisé ou d'un espoir. Il l'ignorait. Sur le sentier désert, une galopade résonna soudain derrière lui, puis une main s'abattit sur son épaule alors qu'un corps trempé s'affalait contre son dos. « Vous auriez pu m'attendre! J'ai presque sauté du train en marche. Et vous pouvez me remercier, j'ai même pensé à prendre votre valise. Bon, on fait quoi ?» Anatole se retourna. L'étudiant, dégoulinant, grelottait devant lui. Depuis que le train avait quitté Saint-Lazare, Étienne se maudissait d'avoir accepté cet ennuyeux compagnonnage. Dès leur première rencontre, ça avait mal commencé. Pourtant, il rêvait depuis longtemps de participer à la journée des auteurs organisée par son école qui réunissait tous les ans une brochette d'écrivains et leurs lecteurs. Chaque auteur se voyait proposer un assistant pour la durée de l'événement, recruté parmi des étudiants volontaires. L'occasion unique pour ces derniers d'approcher une célébrité littéraire. Certains étaient très demandés, aussi le bureau des étudiants avait-il recours au tirage au sort pour désigner l'heureux élu qui assisterait telle ou telle sommité. Étienne s'était inscrit avec le rêve d'assister Hélène Carrère d'Encausse ou Umberto Eco. Il avait écopé d'Anatole Derck, un auteur de troisième ordre. Qu'avait-il écrit ? Étienne l'ignorait. Il fallut néanmoins le contacter, lui proposer une rencontre avant la journée des auteurs, une visite protocolaire selon la tradition instaurée pour cet événement. Mais Anatole Derck se révéla un client difficile. Colosse d'1,90 m, la cinquantaine imposante, des cheveux gris coupés en brosse, il posa sur Étienne un regard bleu acier lors de leur première entrevue. Tandis que d'une voix à faire trembler les vitres, il l'invitait à entrer. Dès les premières minutes, Étienne se sentit mal à l'aise. L'homme ne faisait aucun effort pour animer la conversation. Taciturne, il laissa Étienne dévider de banales paroles admiratives sans l'interrompre ni le relancer. Étienne, qui, à dire vrai, n'avait rien lu de l'écrivain, se trouva vite à court de superlatifs généraux et se tut sous le regard ironique de son interlocuteur. Alors, l'autre lui déclara tout net son dédain pour l'événement proposé. Étienne tenta divers arguments pour le convaincre, mais ne récolta qu'un silence morne. Puis l'écrivain lui proposa un marché dont Étienne se demandait encore ce qui lui avait pris de l'accepter. Il s'agissait d'accompagner le sinistre individu lors d'un séjour en Normandie, pour lequel l'écrivain cherchait un secrétaire. Un projet de recherche à mener sur place, l'affaire de quelques jours. Si Étienne acceptait de l'accompagner, M. Derck pourrait envisager de venir à la journée des auteurs. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû prendre congé. Mais sans réfléchir, il avait accepté. Quand il interrogea Anatole sur les détails et les motifs de l'expédition, un mutisme obstiné lui répondit. Anatole Derck lui fixa rendez-vous le vendredi suivant, gare Saint-Lazare. Ce n'est qu'au pied du train qu'Étienne connut la destination exacte du voyage. Cherbourg, l'extrémité la plus reculée du Cotentin. Une fois installés dans leur compartiment, et après quelques échanges de banalités, un silence pénible s'installa, que l'étudiant tenta de rompre, mais impossible de soutirer à Anatole Derck ce qu'il comptait faire à Cherbourg.